France Inter.
Ce qu'on fait, c'est parce que je veux que la vie des gens, y compris la mienne, change. Et qu'on fasse en sorte que, non pas qu'on change l'histoire, mais qu'on fasse en sorte que la direction de l'histoire soit un peu moins injuste et un peu plus belle. On rend un petit peu de dignité à l'espèce humaine et ceux qui nous regardent, depuis demain, depuis les livres d'histoire ou depuis ailleurs, se disent « Ok, l'humanité n'a pas complètement déraillé et on peut avoir foi dans l'espèce humaine. » C'est vraiment une question de dignité avant tout.
Cette voix, c'est celle de Camille Etienne, 26 ans, militante, prête à des actions radicales pour tenter de sauver la planète et changer le cours de l'histoire. Une voix qu'elle cherche à porter haut et fort depuis son plus jeune âge. Elle s'est engagée très tôt pour les autres. Son baccalauréat à peine décroché, elle donne des cours de français à des migrants et part plaider la cause écologiste devant des élus. On l'a entendu à la tribune du Parlement européen, aux côtés d'une autre jeune fille très engagée, l'activiste suédoise Greta Thunberg.
L'érosion des terres fertiles, la déforestation de nos grandes forêts, la pollution toxique de l'air, la disparition d'insectes, de la faune, de la flore, l'acidification de nos océans. Toutes ces tendances désastreuses sont accélérées par un mode de vie que nous, en tant que privilégiés, considérons avoir le droit de poursuivre. Mais il n'est pas trop tard pour agir. Ça demandera du courage. Ça demandera une détermination farouche d'agir maintenant, afin de poser les fondations, même si nous ne savons pas précisément comment nous allons les façonner.
Combien sont-elles ? Combien sont-ils, ces jeunes gens engagés pour une cause ou pour leur prochain ? Depuis le confinement, des enquêtes montrent une tendance solidaire avec des jeunes de plus en plus promptes à signer une pétition sur les réseaux sociaux ou à militer activement contre les violences, contre le racisme, contre la pollution, pour la paix. À 20 ans, on rêve souvent de changer le monde avec des idéaux plein la tête, en pleine révolte contre les injustices. Pour cette dernière émission de l'année 2024, Interception donne la parole à cette jeunesse engagée. Que vous allez entendre à Paris ou à Kinshasa, à Lausanne, à Tournai ou à Montréal. Dans ce numéro, on vous propose 5 reportages réalisés par 5 médias francophones publics. Au Canada, on va aller à la rencontre d'une adolescente qui a créé une application pour vivre plus zen en limitant ses crises d'anxiété. En France, on ira coller des affiches féministes sur les murs. En Belgique, nous serons en immersion avec un éleveur engagé pour une agriculture biologique. En Suisse, rencontre avec des bénévoles scouts. Mais c'est en République démocratique du Congo que débute ce reportage, dans le bidonville de Pakadjouma, avec Maître Kiboubi, une avocate qui soutient des jeunes femmes victimes de violences. Ce premier reportage sur le continent africain est signé Pauline Azidi de RFI.
Interception sur France Inter.
Bienvenue à Pakadjouma.
Ça, c'est Pakadjouma.
On entend Maître Eliane ici.
Pakadjouma, c'est une ville dans la ville. 50 000 personnes, beaucoup de femmes et d'enfants qui vivent dans un bidonville. Pas d'eau, pas d'électricité, des conditions de vie inhumaines et surtout beaucoup de prostitution.
Bonjour, vous êtes Maître Eliane.
Ça va, c'est bien moi.
Ça va?
Ça va bien.
Vous avez eu du mal à arriver, il y avait des embouteillages.
Tellement qu'il a plu abondamment, je pris de moto, on a failli tomber dans le... Mais ça va.
Maître Eliane Kiboubi a tout juste 30 ans, elle est avocate et depuis 3 ans, elle s'est engagée aux côtés des femmes de Pakadjouma.
Vous avez un t-shirt, Pakadjouma Résilience, ça c'est votre ONG.
Oui, ça c'est notre ONG qui est rien d'autre que initiative d'appui, de soutien, d'accompagnement des enfants, de jeunes filles de Pakadjouma et d'ailleurs, c'est-à-dire ceux-là qui vivent un peu dans des conditions inhumaines. Cette structure regroupe le femmes juristes. Il y a aussi le médecin, il y a aussi le sociologue, il y a plusieurs personnes pour accompagner les actions au profit de la population dans ces coins de la capitale et aussi d'ailleurs.
Parce que Pakadjouma, on est au cœur de Kinshasa ici.
nous sommes à 10 minutes, comme j'aime bien le dire, la République de la Gombe, qui est la commune institutionnelle. Et nous sommes en plein capital. Et en tant que, je peux dire, femme, en tant que maman, en tant que parent, en tant que citoyenne, face à tout ce monde, je ne peux pas rester sans mots. C'est pourquoi je me t'ai dit qu'il faudra mettre le bagage ici.
Est-ce que vous pouvez me raconter rapidement votre parcours à vous ?
Je suis née à Kinshasa.
Pure quinoise alors ?
Pure quinoise, 100% quinoise, la quinoiserie, je veux dire comme ça. Et je fais mes études au lycée Tobongisa. Puis après, je suis allée à l'université de Kinshasa pour faire le droit. Et je suis avocate.
Pour vous, cet engagement justement sur contre les violences basées sur le genre, c'était évident dans votre engagement. Vous êtes devenue avocate pour ça ?
Je ne suis pas devenue avocate pour ça, mais je dis toujours qu'on n'est né pas actrice sociale, mais on le devient par rapport aux réalités que nous trouvons dans notre société, dans notre milieu de vie. Moi, je suis devenue avocate parce que j'avais vraiment cette ambition de devenir un jour avocate. Ma mère voulait toujours que je devienne religieuse. Malheureusement, je ne le suis pas devenue, mais je dis peut-être c'est un peu cet apostolat que je fais ici à Pacajuma. C'est une façon pour moi aussi d'honorer un peu le vœu de ma mère d'une manière ou d'une autre. Oui. Celle-là, on va aller aussi de l'autre côté. Oui, chez le Ruth. Maman, on arrive. Elle, c'est Rebecca.
C'est une de vos bénéficiaires aussi.
Oui, elle a 15 ans. Malheureusement, heureusement, elle a déjà son petit garçon de quelques mois. Mais au moins, nous ne pouvons pas aussi l'abandonner. Elle est à l'école. Elle est en 7e, 8e déjà. Donc l'objectif pour nous, c'est de couper ces systèmes intergénérationnels ici à Pacajuma. C'est-à-dire couper les cycles de dépendance, de commerce, de cesse comme le seul moyen de survie.
Merci, Rebecca. C'est lui votre petit garçon ?
Oui.
D'accord. Son nom ?
Dieu merci.
Dieu merci.
Je m'appelle Nikaël Loa, membre de la Fondation Pacajuma.
Et alors, qu'est-ce qui vous a incité à suivre Maître Eliane ?
Elle est une sainte Eliane, parce qu'elle est en train de donner la solution au problème des jeunes filles, des jeunes mères de Pacajuma. D'une manière radicale. Pas d'une manière superficielle, mais d'une manière radicale.
Un peu plus loin, nous rencontrons Maman Rose. Elle nous raconte en lingala son parcours.
Eliane, bonjour, bonjour.
Vous êtes ?
Oui, oui.
Maman Rose ?
Oui, oui.
Ah, vous êtes contente de voir Maître Eliane ?
Oui.
Pourquoi vous êtes contente de la voir ?
Oyo Maître Eliane, aza, moi na moko, leki moko.
Elle explique avoir appris à lire et à écrire. Eliane, c'est une sœur, une maman pour nous, confie-t-elle. Eliane, qui se met à danser avec les enfants de Pacajuma, et l'on découvre alors son énergie débordante qu'elle dit avoir héritée de sa mère.
Elle était enseignante, elle a fait au moins 35 ans en tant qu'enseignante, institutrice au niveau primaire. Et je voyais toujours ma mère, sa détermination de nous envoyer à l'école, bien qu'elle n'avait pas de moyens, mais aussi de conditions. On était dans des conditions, je peux dire, précaires, mais son enthousiasme, elle était là aussi pour encadrer d'autres femmes, apprendre aussi à d'autres femmes aussi à lire et écrire. Je peux dire que c'est vraiment la motivation est venue beaucoup plus auprès de ma mère. C'est elle qui m'a un peu donné ce goût d'être vraiment sur terrain et surtout d'accompagner les autres.
Et elle repart dans les allées de Pacajuma avec sa détermination intacte.
Nous allons quitter le continent africain et rejoindre d'autres militantes en France. Elles se prénomment Andrea, Nina ou Yelena. Elles font partie du collectif Nous Toutes. Certaines d'entre elles étaient trop jeunes au moment du mouvement MeToo. Aujourd'hui, elles sont pleinement engagées. Le combat féministe leur semble très loin d'être gagné, quand le masculinisme demeure et que les courants ultra-conservateurs menacent. Ce deuxième reportage est signé Aurélien Colli, de France Inter.
Elles sont une cinquantaine dans un local du nord de Paris. C'est la nouvelle génération féministe du collectif Nous Toutes. Parmi elles, il y a Andrea, 25 ans.
Là, je suis en train de coller des affiches sur des petits bouts de bois pour faire des pancartes.
Du scotch, des affiches, du bambou pour des centaines de pancartes qui sont destinées à la grande manifestation organisée pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes.
On dit beaucoup, notamment de MeToo, que ça a été un mouvement qui a fait qu'on a enfin écouté les femmes. Les femmes parlent, elles se sentent peut-être plus légitimes à parler. Pour autant, il y a toujours des choses à faire, notamment parce qu'il y a énormément de thématiques aujourd'hui qui font que c'est important. L'élection de Donald Trump, ça fait peur pour les femmes américaines, mais aussi pour nous. Parce que
il y a aussi indirectement restreint le droit à l'avortement.
Exactement. La montée du masculinisme en France,
ça
les garçons.
Vous.
Oui, bien sûr, moi je le constate. De toute façon, c'est des choses qui s'exportent des États-Unis en France. Hein, donc,
c'est un masculinisme qui a émergé d'abord par les réseaux sociaux, en fait, au départ.
À la base, hein, c'est des petits groupuscules, mais qui prennent beaucoup de place, qui en plus ont des moyens, notamment parce que les idées de l'extrême droite sont nourries aussi par tout ça, et que l'extrême droite favorise ces idées-là. Partout dans le monde aujourd'hui, hein, mais il y a des politiques qui sont revenues sur certaines choses, sur les droits des LGBTQIA+, sur les droits à l'IVG, sur, par exemple en Hongrie, par exemple pour avorter, on est obligé d'écouter le cœur du bébé. Oui, ça fait peur, pour nous c'est une menace, on peut perdre des droits.
À côté d'Andrea, il y a aussi Nina, 19 ans, originaire de province. Elle est trop jeune pour avoir connu MeToo, mais pas pour militer.
Militer, ça permet aussi de partager ses idées. Et c'est assez dur, par exemple, quand on vient d'un village de campagne. Je me dis que même si on ne peut pas tout changer d'un coup, c'est par petites étapes. Depuis toujours, il a fallu se battre. Mais ça montre qu'il faut être encore plus présent. Forcément, donc, ça pousse à s'engager.
Accès à l'IVG partout et pour toutes, pour un consentement libre et éclairé. Voilà quelques-unes des pancartes confectionnées aujourd'hui. Entre les mains de Yelena, qui fait presque figure d'ancienne avec ses 30 ans, le féminisme est antiraciste.
Mon âme de militante et de féministe, elle a toujours existé. Par mon existence de femme noire, nécessairement, j'ai rapidement été confrontée à la convergence entre le racisme et le sexisme. Et donc, l'élection de Trump, en fait, c'est l'incarnation de la montée de l'extrême droite un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de récupérations que je faisais par l'extrême droite. Il y a beaucoup ce qu'on appelle les fémonationalistes qui utilisent nos luttes à des fins racistes. Lorsque les agresseurs sont des personnes blanches, l'extrême droite se mobilise jamais sur les questions de féminicide. Par contre, lorsque c'est possible de le faire parce que les agresseurs sont des personnes racisées particulièrement, c'est ça le fémonationalisme, c'est instrumentaliser nos luttes à des fins racistes, et c'est contre ça qu'on se bat.
La culture du viol se combat dans nos écoles, nos familles, sur nos lieux de travail, partout.
C'est le jour J, le jour de la grande manifestation. Elles sont des milliers aujourd'hui à défiler dans les rues de Paris. Yelena répond à la presse, Nina distribue des pancartes, avec Andrea qui revient aussi sur le procès Pellicot qui résonne dans tout ce rassemblement. C'est le procès de ce mari qui droguait sa femme pour la livrer à des dizaines d'hommes, eux aussi jugés aujourd'hui pour viol.
Ça a beaucoup résonné dans la société française, à l'international aussi. C'est vrai que ça en parle partout, en Espagne, aux États-Unis, vraiment partout. C'est sûr qu'en tant que féministe déjà, mais en tant que femme, on peut que la remercier du courage qu'elle a eu. Une grande partie des accusés se défendent, ils n'avaient pas l'intention de la violer, sans son consentement, et je ne l'ai pas violée. Voilà, et c'est complètement ahurissant, quoi. En gros, voilà, la défense, elle essaye toujours de trouver des raisons qui viendraient amoindrir éventuellement le fait qu'elle se fasse violer alors qu'elle est, est sédatée. Voir aussi une femme comme elle et qui a décidé de mener son combat sans huis clos aux yeux de tout le monde, de même accepter que voilà, tout le monde puisse voir les vidéos choquantes sur lesquelles elle est violée, sur lesquelles elle ronfle, etc. On peut que la saluer et vraiment avoir beaucoup d'admiration pour elle, je pense. C'est aussi pour ça que je pense à un retentissement international, puisqu'on parle de culture du viol en fait dans ces cas-là, et de déconstruire la culture du viol en fait qui vient derrière et de changer de société. Et je pense que oui, ça a donné un nouvel élan.
Marcher pour lutter contre les violences faites aux femmes à Mexico, mais aussi Istanbul, Madrid ou encore Paris. Selon l'ONU, près d'une femme sur trois en est victime.
La manifestation a fait la une des médias, les messages ont donc été entendus, mais pour Nina et Andrea, le militantisme continue. Trois jours plus tard, on les retrouve à nouveau dans les rues de Paris, à la nuit tombée, saut de colle et pinceau dans les mains.
On a des messages écrits en lettres capitales sur des feuilles blanches et on les colle sur des murs pour communiquer et interpeller les passants. Sur les réseaux sociaux, par exemple, on peut avoir ces publications-là, mais je pense que pas tout le monde y a accès, du coup. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux aussi. Ça permet de toucher un autre public. Et dans les personnes plus âgées, forcément, il n'y a pas eu cette éducation. Donc, ils sont moins sensibilisés, moins au courant.
Et ça peut toucher cette génération, ces générations un peu plus âgées, quoi.
Ouais, je pense.
Alors, qu'est-ce qu'on colle, là ?
Là, on colle vague de guerre égale vague de viol. Donc là, c'est notamment pour dénoncer les viols qui sont commis en temps de guerre comme une arme de guerre, finalement. Et donc là, on pense notamment au génocide palestinien actuellement. Évidemment, on pense aussi aux victimes du 7 octobre, de toutes les femmes qui ont subi des violences sexuelles ce jour-là. Donc il y a une actualité permanente et c'est constant. Voilà. Et c'est pour ça que ça peut aussi être dur, hein, en tant que militant et militante. Pas faire de burn-out, quoi.
Interception. RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio Canada.
Nous allons partir maintenant à la rencontre d'une adolescente de 16 ans, Yasmine Benarous. Elle vit au Canada. Elle a créé une application destinée à prendre soin des autres pour atténuer leurs angoisses, mieux réguler leurs émotions, prévenir leurs crises d'anxiété. Cette appli, baptisée Calmos, lui a valu plusieurs récompenses. Une première reconnaissance pour cette jeune innovatrice déterminée à s'investir au service de la science et de ses concitoyens. C'est David Savoie de Radio-Canada qui nous brosse son portrait.
Dans les couloirs du Collège Notre-Dame à Montréal résonnent les voix des professeurs de sciences.
Je parlais de M. Delamarre, c'est lui qui s'occupe d'Expo Science.
Okay. Jean-François Saint-Pierre est coordonnateur au soutien à la réussite dans l'école. Il a accompagné Yasmine Benarous durant la conception de son application. Il nous guide dans une salle de classe où une bannière souligne la victoire de la jeune fille dans une compétition scientifique.
Là, il y en a eu d'autres après, là, mais c'est celle-là qu'on a placée.
Donc, elle est tout le temps, à chaque fois que les jeunes viennent dans cette classe-ci, ils voient
la bannière,
cette bannière-là.
C'est ça. Puis là, j'imagine qu'ils peuvent poser des questions aux enseignants, savoir qui c'est quoi, c'est qui. Puis, mais comme je disais tout à l'heure, pour de vrai, Yasmine, c'est... T'sais, un élève de secondaire 1 nous parle de Yasmine en sachant que c'est une jeune qui a participé dans les concours puis qui était très, très, très loin. Là. Donc, le nom est connu.
Il se rappelle du moment où il l'a rencontrée.
Ben, Yasmine, en fait, c'est ça. C'est une jeune que j'ai rencontrée dès son arrivée au secondaire. Donc, c'est une jeune fille qui vivait de l'anxiété. Donc, j'ai eu à la rencontrer pour ça. Donc, elle avait besoin de stratégie pour gérer un peu ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans son parcours, évidemment, elle a développé plein de stratégies, puis elle a réussi à contrôler tout ça. Et elle a pris ça, puis elle a créé, justement, un outil pour aider les jeunes qui, comme elle, ont vécu ou qui vivent l'anxiété. Donc, c'est un peu de prendre quelque chose qui était un peu négatif dans sa vie. Elle a créé du positif avec ça, puis elle a réussi à le donner aux autres, si on veut.
C'est dans un café, après un cours, qu'on rencontre la jeune femme pour parler de son application.
Donc, bonjour, je m'appelle Yasmine Benarous, j'ai 16 ans et je suis innovatrice. Donc, Calmos, c'est deux applications, une mobile et une web, pour le suivi des élèves qui ont un trouble anxieux en utilisant un objet connecté, un système d'intelligence artificielle et les données physiologiques des élèves. Donc, en gros, ça fait un suivi nocturne des élèves pour pouvoir prédire et prévenir leur crise d'anxiété avec un suivi qui est plus adapté aux demandes des élèves au secondaire.
Qu'est-ce qui t'a amené à créer ça?
Il y a énormément de raisons, mais d'abord et le plus important, c'était mon expérience personnelle, parce que je suis une jeune diagnostiquée d'anxiété et pour revenir au point que je voulais toujours transformer mes difficultés en opportunités d'innovation, ça c'était une de mes plus grosses difficultés. En secondaire, je vivais beaucoup d'anxiété de performance et je faisais beaucoup de crises d'anxiété et à chaque fois, c'était toujours un peu ce cycle où je performais mal dans un examen que je passais des heures et des heures à étudier. Donc j'ai décidé que ça ne devrait pas être une situation qui devrait être autant récurrente et de pouvoir un peu créer un projet qui viendrait en soutien. Étant donné que les crises d'anxiété, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et qui avait un impact important, j'ai décidé de, OK, pourquoi pas pouvoir créer un outil qui était capable de mieux supporter les élèves dans ces moments précis, difficiles. Mm-hmm. Et aussi pouvoir un peu optimiser la manière dont les travailleurs sociaux peuvent s'occuper de leurs élèves en pouvant les prioriser selon le besoin.
Sous peu, l'application Calmos sera testée sur une cohorte plus large et le but est de la rendre disponible au grand public.
Je comprends qu'on peut dire dans votre cas, l'adage « la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre » s'applique très, très bien.
Oui, on peut le dire, oui.
La mère de Yasmine, Neila Mesghani, est une chercheuse et professeure d'université dans le domaine biomédical.
Il y a certainement en elle quelque chose qui a fait qu'elle était attirée par les sciences et elle en fait la promotion. Elle en fait, puis elle est impliquée dans, des affaires que des fois, moi, j'oublie même quand elle m'arrive avec ses programmes. Je dis, ah, ça, c'est le programme de... Non, c'est un autre programme. Donc, elle est impliquée dans tant de choses.
Déjà, à 16 ans, Yasmine semble bien déterminée à poursuivre une carrière scientifique.
Ben, mon rêve, c'est devenir ingénieure biomédicale, mais surtout de pouvoir un peu fusionner, c'est ça, santé mentale, santé en général, avec l'innovation technologique. Travailler dans, c'est ça, dans des systèmes d'intelligence artificielle, dans le développement d'applications, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé une passion dedans et j'espère pouvoir continuer à faire ça. Actuellement, ben, je suis une élève en sciences de la santé pour ensuite continuer en génie informatique et avec une spécialisation dans le génie biomédical.
De retour au Collège Notre-Dame, Jean-François Saint-Pierre se souvient de la jeune Yasmine.
Moi, ce que je trouve génial, là, puis je l'ai dit, puis je le redis encore, c'est vraiment je la vois là, à 12 ans dans mon bureau en train de dire hey, ça marche pas, là, puis j'ai un examen tout à l'heure, puis je réussirai pas. Puis je la vois l'année passée en secondaire 5 en disant garde, j'ai un projet qui est hyper reconnu, qui est justement des notes au Canada, on la reconnaît au Canada. Là. Donc, un projet qui est très intéressant. Donc, c'est de voir toute cette évolution-là, ça, c'est le fun à voir. C'est beau à voir, en fait.
Nous allons maintenant en Belgique, dans la région de Tournai. C'est là que Florian Haineuse réalise son rêve, un engagement pour une agriculture écologique et responsable dans la ferme de ses grands-parents. Un engagement bio, en famille, sur des terres dont il prend soin avec passion. Il se bat de toutes ses forces contre l'agro-industrie. Son aventure a démarré il y a près de 10 ans. Ce reportage est signé Lionel Petit, Martin Messonnier et Hugo Deric pour la RTBF.
L'image du maraîcher en été dans les serres où il fait beau, les journées sont longues, c'est chouette, mais c'est aussi l'hiver. On a l'impression de ne pas être vu à sa juste valeur, quoi. Je m'appelle Florian, j'ai 27 ans, donc je suis maraîcher depuis 2016 et en bio depuis les débuts.
Premier, ce serait bien les choux ou les poireaux. En fait, on va mettre les butternut en dernier parce que sinon, il ne sait pas la sortir.
Ah ouais. Au milieu, il ne sait pas. Bon, on va mettre les poireaux, alors c'est ça qui a le plus.
Je pense qu'on va faire une palette.
J'ai toujours bien aimé faire des légumes. J'ai commencé dans un petit jardin. J'ai vendu devant la maison, j'ai remis un peu plus l'année suivante et voilà, chaque année un peu plus. Mon papa fait de l'élevage viandeux conventionnel, quoi. Donc le bio m'est venu via des stages chez le cousin de maman qui lui est en bio depuis les débuts du bio, donc plus de 30 ans, même 40 je dirais. J'ai vu un peu le système de culture, comment ça se passait, ça m'a plu et du coup j'ai fait le même, quoi. Quand même content de proposer un beau légume sans produit dessus, quoi. C'est quand même un plus. Que ce soit pour la clientèle et même pour moi, j'ai pas envie de travailler avec des produits. J'ai pas envie de travailler avec ça, quoi.
Très fier. Très très fier de lui. Je suis très contente de ce qu'il fait et de comment il évolue et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible.
Oui, belle.
Anne-France, ça va ?
Donc moi c'est Anne-France, je suis la maman de Florian et donc je fais surtout donc la partie vente, désherbage beaucoup et tout ce qui est plantes aromatiques et les choses autres à côté.
C'est pas une grosse camionnette, je pense.
Non, ça va.
Il y a des patates peut-être aussi.
Oui, on en a 80.
Ouais.
À 6 ans, il m'a dit à Saint-Nicolas, un jour, il m'a dit je veux des fraisiers. Et donc on se dit à 6 ans, des fraisiers au mois de décembre. Et depuis ce temps-là, voilà, c'est ça qu'il voulait faire. Mais maintenant, je ne pensais pas que ça aurait été aussi dur. Il faut se rendre compte que, ben, par exemple, il fait des poireaux, mais les poireaux, c'est toutes les semaines, dans la boue, dans le froid, qui pleuve, qui vente, qui gèle, qui neige, et que, voilà, tu pleures tellement t'as froid à tes mains, mais ça, c'est aussi la réalité.
Le matin, c'est quand même parfois dur de sortir quand il gèle ou quoi. Il faut le temps de se mettre en route quand même, quoi. C'est quand même aussi non-stop, parce que, du coup, qu'on a une diversité de légumes importante, du travail toute l'année, quoi. on finit un légume, on en commence un autre. C'est sans arrêt, en fait. C'est un des désavantages d'une part de vacances. Quoi qu'on y arrive quelques jours maximum, mais c'est jamais simple quand même. Je pense que c'est un peu une frustration des agriculteurs. On parle de ramener des produits de l'autre bout du monde alors qu'on nous parle tous les jours d'écologie. C'est déjà un non-sens. Et ici, on nous demande toujours plus de traçabilité, toujours plus de contrôle, toujours plus de paperasse. On est quand même à la base des hommes de la terre. Les paperasses, on n'aime pas ça. Au final, on a l'impression qu'on veut qu'on ne soit pas compétitif et qu'on aille chercher la production ailleurs et pour vendre, à mon avis, d'autres produits qui ne sont pas agricoles, quoi. Le problème, c'est que l'agro-industrie a tendance à vouloir faire ce qu'elle a fait avec le conventionnel, avec le bio, quoi. Les grandes surfaces, en général, prennent des marges beaucoup plus importantes sur le bio que le conventionnel, ce qui est quand même un souci, parce que sur certains produits, finalement, le produit à l'achat de la grande surface, il est quasi au même prix que le conventionnel, mais ils font 5 fois plus de marge dessus, du coup, pour dire que le bio est plus cher, eux s'en mettent plein les poches, quoi. C'est un peu décevant. Pour moi, le bio, c'est une façon de vivre, ne pas toujours dépendre des autres, être un maximum en autonomie, voir pousser les plantes. C'est vrai qu'on doit quand même aller beaucoup sur le terrain, voir ce qui se passe. C'est sûr que c'est plus chouette quand il fait 25 degrés qu'ici maintenant, sous la pluie. Quand je suis dans mon champ, je suis quand même content, je préfère ça que d'être à l'intérieur. C'est quand même un métier qu'on aime et que on est content quand on voit la caisse de légumes, quand elle est prête, et ça fait quand même plaisir, quoi. C'est une fierté de son produit quand même, malgré tout. C'est vraiment un métier de passion, sinon on ne le fait pas. Si on n'aime pas, on arrête très vite, je crois.
Il se bat une caisse pour le bon serre. C'est ok, quoi.
Je vais reprendre les vidanges.
C'est lourd.
C'est un projet à long terme, c'est énormément de travail, mais c'est de la satisfaction aussi quand on voit où on arrive quand même. Ce qu'on pensait faire au début n'est pas exactement ce qu'on fait maintenant, et dans 10 ans, ce sera encore sûrement différent. Il faut tout le temps savoir s'adapter, et j'ai l'impression que si on n'arrive pas à s'adapter, on est très vite dépassé par les événements, quoi. On nous dit qu'on veut une agriculture familiale, mais on fait tout contre l'agriculture familiale. Donc, déjà en agriculture, reprendre une ferme hors cadre familial, c'est quand même relativement compliqué. Vu les budgets fous, que ça devient impossible, quoi. Faut espérer que ça ira, quoi, que... Je pense qu'il y a de l'avenir dans le métier quand même, que le métier est beau, mais espérons qu'il y ait des changements qui se mettent en route, quoi.
Depuis qu'on n'est plus amis, je sens comme un vide dans mon cœur que tu as laissé par erreur juste avant de prendre la fuite. Depuis qu'on n'est plus des sœurs, je l'avouerai à contre-cœur. La vie me fait presque un peu peur et j'imagine toujours le pire. Depuis qu'on n'est plus amis, je crois que c'est plus fort que moi. Mais tous les jours je pense à toi, sans même m'en rendre compte parfois. Et depuis qu'on n'est plus des sœurs, la peine me prend à contre-cœur. Quand je me perds pendant des heures à chercher des photos de toi, dis-moi pourquoi.
Dis-moi.
On s'était rendu sourde avec nos coups d'éclat. Et toi, comment ça va? Dis-moi comment ça va. Et toi, comment ça va? Dis-moi comment ça va. Depuis que notre amour s'est mort. Et toi, comment ça va? M'as-tu remplacé par aigreur, peut-être par mélancolie? Dis-moi si elle est plus jolie, plus drôle, plus attachante aussi.
Dis-moi si tu la trouves marrante autant que tu me trouves chiante. J'espère que ta tête ça va mieux que dans ton désordre amoureux. T'es pas tombé sur des connards qui t'auraient fait pleurer le soir. Est-ce que tu écoutes mes chansons? Est-ce que tu les trouves bien ou non? Est-ce qu'elles te font sourire parfois? Te font te souvenir de moi? Dis-moi pourquoi.
Dis-moi.
Je sens toujours un peu de toi qui bat en moi. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Depuis que notre amour se meurt. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va. Qu'on n'est plus amis. Moi j'ai perdu mon idole. Parce que je t'aimais comme une folle. Peut-être parce que je le suis. Et depuis qu'on se parle plus. Tu sais moi je te vois partout. Dans toutes mes cigarettes fumées. Dans tous mes sanglots ravalés. Où vont les amitiés qui meurent? Dans quel cimetière la terre demeure? Que je puisse m'y rendre à mon tour. Fleurir la tombe de notre amour. C'est drôle comme on s'est enterré. Les histoires d'amour du passé. Mais putain comme c'est compliqué. De dire adieu aux amitiés.
France Inter, Interception.
Et pour finir ce tour d'horizon des médias francophones qui tendent leur micro aux jeunes, nous allons maintenant prendre la direction de la Suisse, dans le parc du Bon Repos à Lausanne, pour un reportage signé Dominique Chauffat de la RTS. Elle nous raconte un engagement scout toujours. C'est une immersion dans la brigade des scouts de Sauvabelin, composée de 600 jeunes, avec des chefs comme Arthur Schlesser.
La 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 la. Bonjour tout le monde et bienvenue à la JDU, la journée des unités. Cet après-midi, vous allez participer à un super jeu qui vous amènera à rencontrer justement les chefs des unités.
Une soixantaine d'enfants et de jeunes sont réunis sous une pluie battante en ce samedi après-midi de décembre, réunis pour le rassemblement de quelques équipes de cette brigade des scouts de Sauvabelin, sous le commandement d'Arthur Schlosser. Il a 24 ans, Arthur, et il a pris cette responsabilité de commandant de brigade en mai dernier.
Au départ, je pense que c'est une passion et un hobby, une activité de loisir qui a pris, je pense, de plus en plus de place dans ma vie au fur et à mesure de mon parcours et de mon avancée dans les responsabilités liées au scout. Aujourd'hui, c'est toujours un loisir, c'est toujours une passion et c'est aussi un engagement bénévole assez conséquent, que ce soit dans mon temps personnel, mais aussi dans des moments comme ça avec le reste du groupe, que ce soit pour l'organisation d'activités ou des activités typiquement scout comme aujourd'hui.
Ça veut dire quoi, beaucoup de temps ?
On a tendance à estimer cet engagement à l'équivalent d'un 40-50%. Et je pense que c'est un assez bon pronostic.
Les scouts s'éparpillent pour participer au jeu de l'après-midi. C'est ce qui fait le sel de cette activité d'ailleurs. Des rencontres, des découvertes, en racontant des histoires tout en étant proche de la nature. En l'occurrence, il a fallu revoir au dernier moment toute l'organisation en raison de la mauvaise météo.
C'est vrai qu'on aime toujours bien être 100% en plein air et dans le parc et c'est toujours plus chouette pour nos activités. Là, on fait comme on peut.
Adaptation maximale. C'est une des caractéristiques que vous devez avoir, en fait.
Je pense que c'est assez nécessaire, ouais. Pour toutes nos activités, nos camps, etc., c'est vrai qu'il y a souvent des imprévus et on essaye de faire avec.
Je suis arrivée, j'entendais le chant de brigade et ça m'a fait tout drôle. C'était trop beau.
C'est Sophie Tchoumi qui arrive avec de l'émotion, on l'entend. Elle a été commandante de cette brigade pendant 4 ans. C'est donc Sophie qui a passé le relais à Arthur Schlosser. Et elle nous explique pourquoi c'est lui qui a été choisi pour ce poste.
Déjà, il y a un aspect de timing. Il faut aussi attendre d'avoir, juste pas une personne isolée, mais aussi toute une génération qui est prête à reprendre les rênes. Et par rapport à Arthur, cocher toutes les cases pour prendre cette responsabilité. j'ai pu identifier toutes ces qualités, que ce soit humaine, d'écoute, de bienveillance, organisationnelle, une certaine rigueur, et aussi cette passion et cet amour du scoutisme, tout en étant capable de remettre en question notre façon de faire et de pouvoir faire évoluer notre groupe dans le contexte sociétal actuel.
Vouloir faire une différence, vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous arrivez à faire?
C'est effectivement quelque chose qui nous motive, je pense, de pouvoir amener un peu de qui on est dans nos fonctions au scout. J'espère que j'arrive à le faire. Je pense que de manière presque automatique, les gens ont des interactions avec nous, ils échangent avec nous, et c'est nous qui avons certaines choses à gérer. Donc on le fait avec notre façon de faire, notre façon d'être. Moi, je sens que je suis encore un peu en phase de rodage et de découverte de toutes les ficelles de mon rôle. Et je pense que dans un ou deux ans, quand ce sera plus acquis, eh ben, je pourrai plus m'investir dans le fait d'apporter ma touche personnelle. Mais je pense que ça vient un peu de manière naturelle.
Salut !
Vous êtes au plein goûter ?
Non, oui, on prépare un goûter.
Enfin, des crêpes.
Trop stylé.
Et c'est quoi ça, là ?
C'est du beurre
fondu. Tu veux un peu ?
Non, non.
Il est comment, Arthur ?
Cool. Il en impose, on va dire.
Il est bien.
Les louveteaux ont de la peine à trouver des défauts à leur commandant. C'est un rôle très particulier qu'il endosse, Arthur Schlosser. Un sacerdoce aussi, parfois.
C'est plein d'émotions assez contrastées, je pense, parce que c'est l'occasion d'avoir une vision globale sur ce groupe dans lequel j'évolue depuis plus de 10 ans, et avec les personnes avec lesquelles j'évolue depuis plus de 10 ans. Donc c'est assez... enthousiasmant comme ça. C'est des moments de plaisir très concentrés, vraiment de bonheur assez fort à mettre sur pied des projets dans le cadre du scoutisme. Puis c'est aussi, d'un autre côté, des responsabilités assez conséquentes et du coup des moments parfois de stress, de doute, de difficulté. Il y a vraiment les deux revers de la médaille d'un poste à responsabilité, je pense. Tout ce que ça peut nous apporter de positif et parfois de plus compliqué.
La solitude, c'est des fois ça, le poids?
Ça peut l'être parce que, en l'occurrence, en tant que commandant, je suis seul avec cette fonction-là et il n'y a personne qui la partage en même temps que moi. Par contre, je ne me sens jamais seul très longtemps parce que je suis très entouré par d'autres responsables avec qui je peux échanger, discuter et trouver du soutien et de l'aide en cas de besoin.
C'est difficile de vouloir concilier tous les pans de sa vie, les études, les loisirs, le bénévolat dans les scouts et une telle implication, sans compter au propre comme au figuré d'ailleurs, ça n'est pas toujours compris par tout le monde. Sophie Tchoumi l'a très vite réalisé.
Mes frères et mes amis sont tous majoritairement scouts, donc ça, il n'y avait aucun problème. Mes parents également, mais c'est vrai que dans le cadre professionnel, certains de mes collègues ont eu un peu de la peine à comprendre que rapidement j'ai baissé mon taux d'activité en tant qu'ingénieur pour dégager du temps pour assumer cette responsabilité de commandante. Ouais, je pense que c'est vraiment une question de vision un petit peu de la vie et de la société, mais pour certains c'était un peu difficile à comprendre.
C'est vrai, Arthur, c'est pas donné quand même à tout le monde, hein.
Non, je pense que c'est clairement pas donné à tout le monde. Ça demande du temps et des possibilités pour s'investir bénévolement dans une activité non rétribuée comme ça, que tout le monde n'a pas. Ça demande souvent d'adapter un peu son rythme de vie. Moi, mes études, par exemple, durent un peu plus longtemps que si j'avais pas cet engagement-là et que j'aurais pu aller plus vite avec mes études. Donc, en l'occurrence, je les étale un petit peu. Puis ça a des impacts sur la vie personnelle, la vie de famille, etc. Mais j'aime pas le considérer en termes de sacrifice, plus en termes de choix. Et moi, je choisis d'investir du temps et de l'énergie là-dedans et je le fais avec plaisir. Mais le bénévolat dans le scoutisme, je pense, c'est vraiment un fondement du mouvement.
C'était le dernier Interception de l'année 2024, une émission spéciale Médias francophones publics. Avec à Kinshasa, un reportage de Pauline Azidi de RFI. À Montréal, un reportage de David Savoie de Radio-Canada. À Lausanne, reportage de Dominique Chauffat de la RTS. Près de Tournai, reportage signé Lionel Petit, Martin Messonnier et Hugo Deric pour la RTBF. Et à Paris, un reportage d'Aurélien Colli de France Inter. À la réalisation, Maria Pasquet. Pour réécouter cette émission, les précédentes ou les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast d'Interception sur le site de France Inter ou les applis du groupe Radio France.